Voici le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, ce qui ressemble à une crise de couple, avec mensonge, mépris, duplicité, les mots de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, pour évoquer la crise diplomatique avec les États-Unis et l'Australie. Il exprime en fait la colère d'Emmanuel Macron. On y revient après les autres titres, Christelle.
Primaire hors note primaire, un simple vote des militants au Parti Socialiste. Chez les écologistes, on connaîtra les résultats du premier tour en fin d'après-midi. Le vélo consacré à Paris à l'occasion de la journée sans voiture, mais dans le massif des Vosges, il passe plutôt pour un ennemi, vous l'entendrez. Les sports à la fin de ce journal, des supporters un peu trop nerveux à Lens et un Messi à Paris. On verra tout ça avec Laetitia Bernard.
Et à 8h20, dans 20 minutes, notre invité, l'essayiste et romancière Titiou Lecoq. Son dernier livre, Les Grandes Oubliées, mais pourquoi l'histoire a-t-elle effacé les femmes, sort aux éditions de l'Iconoclaste.
France Inter.
Décidément, ça ne passe pas. La France ne digère pas l'affront des Australiens et des Américains sur la vente des sous-marins et la constitution d'un axe anglo-saxon face à la Chine. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, était direct et peu diplomatique hier soir sur France 2.
Ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Dans une vraie alliance, on se parle, on ne se cache pas, on explique nos interrogations, on se respecte, on respecte la souveraineté. Ça n'a pas été le cas, c'est pourquoi il y a crise.
Ça ne va pas du tout. Et il déroule, dénonçant un mensonge, une duplicité, une rupture majeure de confiance, pire, un mépris. Et ces mots encore, la méthode Biden ressemble à celle de Trump, les tweets en moins. C'est inédit dans les relations transatlantiques et c'est pour ça que la France a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Mais derrière cette surenchère de mots, c'est en fait le président de la République qui hausse le ton, Simon Le Baron.
La colère de Jean-Yves Le Drian, c'est celle d'Emmanuel Macron. Le président ne s'est toujours pas exprimé publiquement sur cette catastrophe diplomatique, comme le dit un ministre, mais ses proches nous le confient. Il se sent profondément trahi par son allié américain. Les membres de la cellule diplomatique de l'Élysée ne dorment plus depuis 3 jours. Ils cherchent la meilleure façon de riposter. Ils épluchent ligne par ligne le contrat sur les sous-marins pour trouver la possibilité d'un éventuel recours juridique. Et le chef de l'État, lui, voit plus loin. Il espère que cette claque lui servira à convaincre nos voisins de la nécessité d'une autonomie stratégique européenne qu'il portera lors de sa présidence de l'Union en début d'année prochaine. Mais si Emmanuel Macron hausse le ton par la voix de son ministre, c'est aussi pour des raisons de politique intérieure. Ses adversaires se sont empressés de dénoncer un fiasco, une humiliation pour la France. Le président doit montrer qu'il ne se laisse pas faire, lui qui compte justement faire campagne en 2022 sur l'esprit de conquête et le retour de la grandeur industrielle française.
Faire plus, donc, ça veut dire par exemple peser aussi sur la définition d'un nouveau concept stratégique de l'OTAN. Mais pour Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po, la France est isolée dans cette crise diplomatique.
Franchement, c'est plus un coup dur pour la France que pour l'Europe, car c'est un contrat qui avait été négocié exclusivement entre le groupe naval français et ses partenaires australiens. L'Europe n'avait rien à voir là-dedans. C'était négociation purement d'une puissance nucléaire vers l'Australie. On devait fournir une douzaine de sous-marins à propulsion classique. Et l'Europe n'a pas été mise dans la négociation. Donc, évidemment, on comprend aujourd'hui que l'Europe est extrêmement réservée. D'ailleurs, Joseph Borrell, qui est le chef de la diplomatie européenne, a dit avant-hier que l'Europe n'avait pas été mise au courant et que, de toute façon, elle n'était pas au courant de ce contrat. Donc, c'est plus...
Il a ajouté que cela ne remettait pas en question la relation avec les États-Unis.
Non seulement que ça ne remet pas en question la relation avec les États-Unis, mais ça ne remet pas en cause la relation avec l'Australie. Je vous rappellerai qu'il y a en cours de négociation un méga accord de libre-échange avec l'Australie, dont les négociations ont commencé en 2018.
Patrick Martin-Grenier avec Victor Mattey. Le ministre australien de la Défense affirme que son pays a été franc, ouvert et honnête sur ce contrat qui, explique-t-il, dépassait le budget et qui avait pris des années de retard. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, elle, se contente d'expliquer, je cite, « Les bons amis ont des désaccords, mais c'est la nature de l'amitié ». Fin de citation. Vous pouvez retrouver un dossier complet sur notre site franceinter.fr. En Algérie, l'ancien président Bouteflika sera inhumé en début d'après-midi au cimetière d'El Alia, là où reposent ses prédécesseurs, ainsi que les figures de la guerre d'indépendance, des funérailles à minima en toute discrétion pour celui qui s'était fait chasser du pouvoir en 2019. Hier, pas non plus d'émission spéciale à la télévision, à peine le rappel de son parcours politique. L'Algérie semble pressée de tourner la page. Quand va-t-on retrouver un peu de liberté face au Covid ? Olivier Véran, le ministre de la Santé, se montre optimiste dans les colonnes du Parisien ce matin. Nous pourrions alléger progressivement les restrictions, dit-il, là où le virus circule le moins, puis partout. Il pourrait inclure le pass passe sanitaire, mais il se garde pour l'instant de donner une date. Le taux d'incidence est tombé à 83 cas pour 100 000 habitants, en baisse de 25% sur les deux dernières semaines, mais 8 millions de personnes restent potentiellement à vacciner.
En politique, il n'y aura donc pas de primaire au Parti Socialiste.
Le PS laisse le soin aux militants de désigner le ou la candidate. Olivier Faure, fraîchement réélu premier secrétaire hier à Villeurbanne, ne voulait pas d'un processus qui pourrait conduire à une surenchère, c'était ses mots. Ils sont trois en course, Anne Hidalgo, Stéphane Le Foll et Jean-Christophe Cambadélis. Christophe Vincent.
Les 500 délégués se sont épargnés une nuit de tractation. À une large majorité, ils ont approuvé le compromis. Un vote le 14 octobre dans chaque fédération, réservé aux adhérents à jour de leur cotisation. Un succès pour le premier secrétaire réélu, Olivier Faure, qui a réitéré son soutien à Anne Hidalgo.
Ça prouve que les socialistes ont trouvé ensemble la force de dépasser les petits conflits subalternes. Il y a aujourd'hui une volonté commune d'avancer, c'est de ne pas montrer en fait ce que nous avons connu tellement souvent au Parti Socialiste, un Parti Socialiste déchiré, balkanisé. Là, nous avons encore fait la démonstration que nous pouvions nous rassembler et c'est comme ça que nous sommes les plus appréciables.
Les soutiens d'Hélène Geoffroy, la rivale d'Olivier Faure, ont fini par s'abstenir. Dominique Moll, élu du Puy-de-Dôme.
Nous aurions préféré un débat, c'est pour ça que nous sommes abstenus. Mais c'est vrai que nous avons quand même une volonté d'apaisement. Nous sommes donc tous des socialistes, nous avons une volonté d'arriver au présidentiel unis. C'est une lutte d'un an, on a réussi à avoir ce vote des militants, ça c'est très important.
Pour Anne Hidalgo, la route vers la présidentielle s'est bien dégagée. À Villeurbanne, Christophe Vincent, France Inter.
Les écologistes, eux, ont choisi la primaire. 120 000 personnes devaient se prononcer par vote électronique. On connaîtra le nom des deux finalistes tout à l'heure à 17h30. Eux aussi se disent écologistes. Plus de 40 000 chasseurs ont manifesté dans toute la France pour dénoncer les nouvelles restrictions prises sur la chasse aux oiseaux. À Redon, par exemple, ils étaient au moins 5 000 à revendiquer le respect qu'ils portent à l'environnement. C'est le cas de Pierre. Il chasse le week-end à Loudéac, dans les Côtes d'Armor.
Ce sont d'abord des gens qui passent énormément de temps dans la nature, qui entretiennent un écosystème. Et je dis moi le premier, en l'occurrence, où je passe des heures et de nombreux week-ends à entretenir un bois, des allées, un biotope, un environnement, pour que du coup, en effet, il y a une finalité derrière, c'est la chasse, mais finalement, on entretient énormément le territoire. Et peu de gens en sont conscients. À la base, je suis quelqu'un qui travaille derrière un ordinateur, je pianote sur un clavier, et pour autant, le week-end, je démarre ma tronçonneuse, je vais aller entretenir mes chemins. Quand il y a un arbre qui est tombé au milieu, je le dégage. C'est un rassemblement qui a été motivé par les chasseurs, mais vous avez des pêcheurs, des agriculteurs, et vous avez une représentation qui est de la ruralité au sens large.
Pierre au micro de Maxime Glorieux de France Bleu Armorique.
Et si vous venez à Paris aujourd'hui, eh bien vous vous déplacerez à pied, en trottinette, en roller, en vélo, en skate, mais en tout cas pas en voiture.
Et oui, c'est la journée où toutes les voitures, même électriques d'ailleurs, sont bannies du centre de la capitale. Une journée baptisée Respire, qui consacre la bicyclette. Et paradoxalement, cette dernière, adulée à Paris, est conspuée dans le massif des Vosges. Ceux qui pratiquent le VTT sont dénoncés, voire attaqués. L'association SOS Massif des Vosges propose même de les bannir de certaines zones, d'où la révolte des vététistes. Antoine Balandra.
Ils en ont ras le bol d'être pointés du doigt. Les amoureux du VTT dans les Vosges disent être meurtris, choqués d'avoir été désignés comme des dangers pour les autres usagers des forêts. Danger aussi pour la nature. Écoutez ce que disait Dominique Imbert, président de l'association SOS Massif des Vosges sur France Bleu Alsace. C'était il y a 15 jours.
L'attitude des VTT enduro notamment, c'est que dès qu'il y a une piste, c'est bien plus drôle de passer à côté de la piste. C'est-à-dire qu'en réalité, ça va ouvrir la voie à des pratiques sauvages qui ont pour effet de raviner et de détruire complètement le sol forestier.
Les vététistes estiment au contraire participer à l'entretien des sentiers, à la protection de l'environnement, par une pratique non polluante. Maxime Mouget est membre du collectif Alsace VTT Massif des Vosges. Il ne comprend pas pourquoi les pratiquants du VTT sont parfois attaqués physiquement.
On retrouve énormément de pièges en forêt, des pieux, des clous plantés au sol pour abîmer le matériel, voire des câbles tendus pour blesser les personnes. Aujourd'hui, on a envie de prendre la parole pour dire, écoutez, on est plutôt dans une logique bienveillante au niveau de notre sport et on comprend pas pourquoi on est stigmatisé comme ça et diabolisé au niveau du massif.
Les pratiquants du VTT dans les Vosges espèrent maintenant interpeller les politiques pour qu'ils proposent des aménagements et des règles claires.
Antoine Balandra de France Bleu Alsace. Les lauréats auront la tête dans les étoiles ce soir. Les Oscars de la télévision seront décernés à Los Angeles. On s'attend Confinement oblige, un triomphe de Netflix qui compte pas moins de 129 nominations. Et il y aura aussi Disney+, lancé il y a moins de 2 ans. Le site de streaming de la marque aux grandes oreilles est déjà un immense succès commercial. À Los Angeles, Loïc Piala.
Porté par son catalogue et ses énormes moyens, Disney+ s'est très vite imposé sur le marché. En 2 ans, la plateforme a séduit 100 millions d'abonnés dans le monde. Ses 71 nominations lors des Emmy Awards confirment sa croissance en mode vitesse-lumière.
Tu me demandes de parcourir la galaxie à la recherche de son foyer et de le remettre à une race de sorciers ennemis.
Produit de la galaxie Star Wars, le Mandalorian est par exemple nommé 24 fois cette année. Seul The Crown de Netflix fait aussi bien, mais il a fallu des années au pionnier Netflix pour asseoir son statut.
Nous sommes vraiment un couple pas comme les autres.
Disney a aussi su exploiter l'univers Marvel, autre franchise dans laquelle le groupe a investi des milliards. WandaVision, nommé 23 fois, concourt dans la catégorie mini-série. Cette variation inattendue dans le genre formaté des super-héros a intrigué la critique et déjà remporté des Emmy Awards techniques. Ses acteurs, Paul Bettany et Catherine Hahn, pourraient compléter la moisson. And there's a million things I haven't done, but just you wait, just... La captation de la comédie musicale Hamilton représente une autre chance de récompense, mais le phénomène de Broadway a déjà joué son rôle. Les téléchargements de l'application Disney+ ont augmenté de 72% quand Hamilton est arrivé sur la plateforme. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Voilà, avec des gagnants et des perdants, comme dans le sport.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
C'est pas l'ambiance qu'on espérait dans le derby du Nord hier en Ligue 1 de football.
Mais non, entre Lens et Lille. Pourtant, il y avait de quoi faire la fête côté lensois vainqueur à domicile 1-0. 15 ans qu'ils attendaient cela. Mais ce qu'on va retenir, ce sont des affrontements, des jets de projectiles à la mi-temps et puis des supporters qui envahissent le terrain. Le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille.
Il y a eu quelques gestes qui ont mis le feu aux poudres et une réaction qui est dommageable. Ça s'est déroulé dans une certaine confusion, notamment à la mi-temps. Malheureusement, parce que ce genre de rencontre doit être une fête au niveau de la région. Là, c'est l'image de la région qui est touchée par ce qui s'est passé. Il y a des procédures qui sont en cours. Bien entendu, on aura au niveau de la LFP, on aura au niveau de la justice, on aura au niveau des plaintes déposées par le club, par l'équipe adverse aussi, de ce que j'ai compris de nos échanges. Bien entendu, tout acte de violence est condamné par le RC Lens. Il y aura certainement une convocation devant la commission de discipline qui étudiera le dossier. Et tout champ des possibles est ouvert, bien entendu.
Allez, retour au jeu avec cette première victoire de la saison pour Bordeaux hier soir à Saint-Étienne, 2-1. La 6e journée de Ligue 1, elle se termine ce soir avec PSG Lyon et Messi qui va jouer pour la première fois dans son nouveau jardin du Parc des Princes. Et pour son entrée sur la pelouse, le joueur finalement il va entendre ceci. Et oui, c'est Phil Collins qui a gagné le match contre DJ Snake grâce aux supporters qui ne voulaient pas de changement de musique.
Ils ne voulaient pas lâcher. Hein. Ça fait 30 ans que ça dure, il fallait pas que ça change.
On ne touche pas au monument.
À propos de monuments, Christelle. Justement, Clermont et La Rochelle, là, c'est deux cadors du top 14 de rugby, mais alors des cadors mal classés.
Et qui s'affrontaient hier soir pour la 3e journée de championnat. Les deux équipes, en fait, elles étaient à la recherche d'une première victoire de la saison. Et après un score de 23-22, finalement, c'est le soulagement en Auvergne, Fanny Lechevestrier.
Avec ce cri de libération des 16 000 supporters du stade Michelin complètement détrempés après 2 heures passées sous un déluge de pluie, mais qui en redemandait encore. Une joie à la hauteur de la peur éprouvée d'enchaîner une 3e défaite inédite pour le club depuis 2004. À la hauteur aussi du soulagement exprimé par l'entraîneur de la défense, Benson Stanley.
On a gagné, honnêtement. Les joueurs pouvaient être fiers de leur performance et soulagés, bien sûr.
Soulagés de voir aussi que l'histoire peut continuer à s'écrire à Clermont, même sans Franck Azéma, maître des lieux ces 11 dernières années et qui a passé le flambeau à Jono Gibbs.
C'est un nouveau coach qui est avec nous et on a besoin de confiance. On n'a pas changé énormément, mais c'est juste peut-être la façon qu'on donne le message. Peut-être ça a changé et c'est à nous de continuer à travailler avec nos joueurs.
Des joueurs clermontois que l'on dit parfois trop vieux pour jouer le haut de tableau. Hier soir, ce sont pourtant encore les grognards de Camille Lopez et Fritz Lee qui ont haussé le ton, à l'image d'une belle colère de Lopez, pour mieux montrer la voie vers le succès.
Et en tête de classement du top 14, c'est toujours Toulouse. Encore vainqueur hier à Montpellier, mais sur le fil, hein, quand même, 17-15.
Bon, et Laetitia, le sport a aussi sa place dans les journées du patrimoine ce week-end. Vous nous avez préparé une petite sélection.
Oui, alors, vous avez une découverte des joutes nautiques en Seine-et-Marne, à Saint-Mamé. Au Musée national du sport à Nice, on peut s'initier aux commentaires sportifs. Forcément, ça j'aime bien. Et alors, mon préféré, on retourne en Seine-et-Marne, à Fontainebleau. On peut pratiquer ou découvrir le jeu de paume, l'ancêtre de tous les sports de raquettes. Et il paraît que Henri IV, c'était un petit peu le Rafael Nadal ou le Roger Federer de l'époque.
Ils ne devaient pas être très très nombreux quand même à savoir jouer. Merci Laetitia.
Dans le journal de Christelle Robière, le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Un dimanche sous la pluie en général, Jean-Michel Golinski.
Globalement, un temps pluvieux aujourd'hui avec des averses de la Bretagne aux Pyrénées et des pluies plus fortes et durables entre la Normandie, le sud de l'Île-de-France, sur le centre Val-de-Loire et de la Bourgogne-Franche-Comté à Rhône-Alpes, avec de la neige à partir de 2000 mètres sur les Alpes du Nord. Des Hauts-de-France, l'Alsace, malgré un ciel plus ou moins voilé, le temps va rester sec. Autour de la Méditerranée, le soleil sera plus rayonnant, sauf ce matin sur la Corse, traversée par des orages. Et puis le Mistral, la Tramontane, les rafales d'ouest sur la Corse seront très sensibles, dans des températures qui vont se maintenir entre 23 et 24 degrés, du nord de la Seine à la frontière allemande, vers 26-28 autour de la Méditerranée. Mais sous les pluies ou les averses, il faudra se contenter de 20 degrés en moyenne.
Jean-Michel Golinski, Météo France.